Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Le journal avec Joséphine Jones Mundimana.
Nous sommes lundi 14 novembre 2022. Vous êtes bien sur la radio Inzamba Gatika Kawe. Bienvenue dans ce journal en français dont voici d'abord l'essentiel. C'est un nouveau rebondissement dans l'affaire en rapport avec le dernier détournement des fonds à l'état-major de l'armée. Les militaires inculpés demandent la présence des responsables de l'armée pour répondre aux questions. Montée des prix des denrées alimentaires dans la province de Muyinga, les consommateurs se lamentent. Enfin, les réactions de condamnation de l'emprisonnement du journaliste Florian Ilangavier en tôle depuis plus de deux mois continuent à fuser de partout. La dernière en date, c'est le Comité pour la protection des journalistes, CPJ, qui se dit inquiet des conditions de sa détention et qui demande au gouvernement de bien assurer sa sécurité. Voilà pour le sommaire de ce journal. Merci d'avoir choisi ce rendez-vous d'information.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Madame, messieurs, bonsoir et bienvenue encore une fois dans ce journal. Cinq personnes de la colline Rukere en commune Kabarole de la province Kayanza sont en garde à vue depuis ce dimanche au cachot de la police dans cette commune. Ils sont accusés d'avoir assassiné une femme connue sous le nom de Jeanne Banilafacha de la même colline dans la nuit de samedi à dimanche. Parmi les présumés auteurs de ce crime figure aussi son conjoint. Les précisions avec Jean-Marie Ndabashinze.
D'après les informations fournies par l'administration en commune Kabarole, Jeanne Manirafacha, âgée de 37 ans, était la femme de Jean Vizimana, âgée de 21 ans. Mais depuis un certain bout de temps, il n'était pas en beau terme du fait qu'il s'accusait mutuellement des pratiques liées à la sorcellerie. À cet effet, samedi de la semaine passée, vers 18h, la femme a pris la décision de rassembler tous ses habits pour en faire retourner chez ses parents. Mais son mari Jean Izimana lui a refusé, si bien qu'il a fallu l'intervention d'un voisin pour le contraindre finalement à accepter de céder. Toutefois, Jean Izimana a précisé qu'il devrait être le seul à l'accompagner chez elle au moment où il faisait déjà 21h. Ainsi, vers minuit, la population a été réveillée par des cris de détresse. Mais après avoir cherché dans la localité où les cris s'étaient fait entendre, rien n'a été constaté. Puis très tôt dans la matinée de dimanche vers 5h, il a été découvert le corps sans vie de Jeanne Manirafacha gisant sur la colline Lolero dont elle était originaire. Le corps présentait des signes témoignant qu'un objet lui a été administré ainsi que des coups de pied au niveau du ventre alors qu'elle portait une grossesse de 8 mois. S'il saut, cinq hommes présumés avoir trempé dans la disparition tragique de la femme ont été appréhendés pour des réseaux d'enquête et sont pour le moment au cachot de la police à Kabarole. Signalons néanmoins que le mari de la femme est en cavale depuis la nuit de ce samedi, le jour du drame.
Merci Jean-Marie Ndabashinze pour toutes ces précisions. Le nombre de militaires impliqués dans le détournement des fonds à l'état-major général de l'armée à la direction centrale de traitement ne cesse de s'alourdir. Ils sont aujourd'hui au nombre de 120 détenus dans ce dossier. Certains d'entre eux refusent de répondre aux questions. Ils exigent la présence des nouveaux et des anciens chefs d'état-major de l'armée qui sont encore en vie. Les détails avec Pierre Garungu.
Le nombre de militaires qui ont été arrêtés dans ce dossier depuis le début du mois d'octobre s'élève à 120. Parmi eux figurent ceux qui travaillaient dans le bureau de traitement BT, qui à l'époque était le bureau central de traitement BTC. Les informations recueillies au sein de l'armée disent que même ceux qui ont été envoyés dans des missions de maintien de la paix à l'étranger ont été convoqués par le chef d'état-major, le général Prim Nyongabo, pour interrogatoire. Les mêmes informations révèlent aussi que c'est eux-mêmes qui devraient se payer les billets d'avion pour rentrer au pays. Les militaires craignent que ce dossier risque d'être classé sans suite, puisque le général Prim Nyongabo aurait trempé dans ce dossier en exigeant des virements de montants sur son compte. Nos sources affirment aussi que certains militaires impliqués dans ce dossier ont refusé de répondre aux différents interrogatoires de l'auditorat militaire. Ils exigent la comparution des différents anciens chefs d'état-major encore en vie et ceux qui sont aux commandes de l'état-major aujourd'hui. L'auditorat militaire, qui a ordonné l'arrestation de ces militaires, en majorité des sous-officiers, est en train d'enquêter sur le vol d'une somme importante d'argent, estimée à des milliards de francs burundais. La rédaction de la radio Inzamba, Agathe Kakawe, a appelé par téléphone le colonel Floribert Biyereke pour qu'il puisse donner la lumière sur ce dossier, mais sans succès.
Et puis, l'emprisonnement de Florian Elangavi est un signal fort du gouvernement du Burundi pour faire taire tous ceux qui réclament le rétablissement du droit d'expression en général et de la presse en particulier. C'est ce qu'indique le Comité pour la protection des journalistes, CJP, en sigle, et c'est après plus de 2 mois d'emprisonnement de ce journaliste. Ce comité interpelle le gouvernement burundais à garantir la sécurité de Ilangabiye face aux menaces qu'elle reçoit de certaines autorités publiques. Suivez Tom Gilson, il est le représentant de CPJ auprès des institutions de l'Union européenne.
Au comité pour la protection des journalistes, nous lançons l'appel que Ilangabiye soit libéré immédiatement et autorisé à continuer sa vie et son travail sans autre ingérence. Premièrement, au début, quand elle a été détenue, elle a été refusée à sa famille et à un avocat. Et deuxièmement, elle n'a pas été officiellement inculpée. Alors, ce qu'on voit, c'est les violations typiques de la procédure judiciaire pour Burundi. Elle a été interrogée sur son travail avec Radio Igikanjaniro. Ceux qui ont fait cette interrogation ont aussi accusé elle de travailler avec les groupes d'armée, de l'opposition armée, et aussi des espionnages. Alors, il semble donc que les autorités continuent toujours à voir les journalistes comme les gens liés à l'opposition armée. Selon certaines informations, elle a aussi été agressée sexuellement ou physiquement en détention. Alors, ces allégations doivent être enquêtées par une autorité indépendante. Le Burundi doit respecter les droits des journalistes et travailler et voyager librement sans ingérence. Les autorités burundaises doivent se rappeler qu'il y a les obligations nationales et internationales de protéger la liberté d'expression. Mais il paraît que les autorités continuent à ne pas tolérer les critiques légitimes. Quand les jeunes sont menacés, harcelés ou emprisonnés, c'est une attaque contre la communauté de la média. C'est aussi une attaque contre ceux qui défendent la liberté de la presse au Burundi. Alors, les Burundis méritent une presse libre et dynamique, et les Burundais méritent de recevoir les informations fiables et aussi de demander la rétablissement du pouvoir.
La déclaration de l'organisation CPJ intervient après des menaces de viol que Florian Ilangavi a reçues lors d'une fouille perquisition à l'intérieur de la résidence des femmes dans la prison centrale de Muyinga. C'était la semaine dernière.
Inzamba.
Je vous le disais dans les titres, la flambée du prix des denrées alimentaires sur le marché inquiète les consommateurs de la province de Muyinga. Ces prix ont augmenté de 1 000 à 2 000 francs selon les produits, et cela depuis plus de 3 mois.
La flambée des prix pour les denrées alimentaires en province de Muyinga s'est manifestée depuis le début du mois d'août dernier, comme l'indiquent quelques consommateurs qui se sont confiés à notre radio. Un kilo de haricots, tout venant communément appelé kirundo, qui coûtait 800 francs, coûte aujourd'hui 1 800 francs. Le kilo de haricots dites kinure, qui coûtait 1 200 francs s'acquiert à 2 000 ou 2 200 francs. Le haricot jaune qui s'achetait entre 1 800 et 2 000 francs coûte 2 800 francs. De toutes les denrées alimentaires, le riz a connu une hausse vertigineuse du prix. Le riz de qualité très moyenne qui coûtait entre 1 800 et 2 000 s'achète précisément à 3 500 francs le kilo. Le riz importé de la Tanzanie, très convoité par des familles ayant un grand revenu, se vendait entre 2 500 ou 2 800. Aujourd'hui, on le trouve à 4 200 francs. Le prix au kilo du maïs sec coûte 3 000 francs alors qu'il était à 800 ou 1 000 francs. Des denrées comme la patate douce, le manioc, la banane, la colocasse ont vu leur prix majoré de 1 000 francs selon l'unité de mesure utilisée. Pas mal de consommateurs craignent que des membres de leur famille, des enfants comme les adultes, risquent d'attraper des maladies liées à la mauvaise alimentation, puisqu'aujourd'hui, manger 2 fois par jour est quasiment impossible. Les consommateurs demandent à l'État du Burundi de diminuer les taxes et impôts pour les vivres importés afin de stimuler les commerçants à en importer en grande quantité et à des prix intéressants pour le bien de la communauté.
De Muyinga à Cap, c'est la province de Lomongue où les conducteurs de véhicules s'inquiètent. L'inquiétude est due à une spéculation croissante mise sur le dos des pompistes lors de la distribution du carburant dans différentes stations-service. Ils donneraient des quantités inférieures à celles demandées par les clients. Certains conducteurs préfèrent aller s'approvisionner ailleurs dans d'autres provinces. Le point avec Georges Nimenia.
La première station pointée du doigt dans ces spéculations est une station-service nouvelle se trouvant en face de l'hôpital provincial de Lomongue à quelques mètres de la route nationale numéro 3 Bujumbura-Lomongue-Makamba. Selon les informations fournies par les chauffeurs locaux, les pompistes exagèrent et volent entre 10 et 20 000 francs burundais à chaque fois qu'un véhicule s'approvisionne. La ville de Lomongue compte 8 stations-service. D'autres se trouvent en dehors de la ville, notamment dans les zones Gatete, Kigwena et Kizuka, en commune et province Lomongue. Ces chauffeurs s'approvisionnent si ces stations présentent des irrégularités en cas de pénurie de carburant. Cela a un impact négatif sur l'activité quotidienne, car selon eux, ils travaillent à perte ou entrent en conflit avec les patrons. Selon eux, ils préfèrent s'approvisionner notamment dans la capitale politique Bujumbura ou dans d'autres provinces dont Bururi et Makamba. Selon nos sources à Lomongue, il n'y a pas deux mois, au moins quatre pompes des stations service de Lomongue avaient été fermées par le bureau burundais de normalisation BPN qui demandait aux propriétaires des stations de se corriger. Aucun changement ne s'est présenté apparemment vis-à-vis de ce comportement de certains pompistes qui continuent à spéculer. Les propriétaires de véhicules demandent à l'administration et à la police de veiller sur ce cas de fraude. La rédaction de la radio Inzamba contactée par téléphone le gouverneur de Lomongue, Léonard Niyonsaba, pour qu'il nous éclaire sur ses craintes des automobilistes de cette province, mais nous n'avons pas parvenu à le joindre.
Merci Georges Nimenia. Le 14 novembre, chaque année, le monde célèbre la journée mondiale du diabète au Burundi. Plus de 200 000 personnes vivent avec le diabète selon les chiffres de la Fédération internationale du diabète. Dans une lettre envoyée au ministre burundais de la Santé, cette organisation demande d'améliorer l'accès à la meilleure éducation au diabète au sein des professionnels de santé et des personnes atteintes du diabète. Suivez Jérôme Kazabouke, il est membre de Blue Cycle Voice, une campagne de la Fédération internationale du diabète.
La fédération estime que plus de 200 000 personnes vivent avec le diabète au Burundi, plus de 58% qui ne sont pas diagnostiqués. En 2021, le diabète a entraîné plus de 3 000 décès. Plus de 22 millions de dollars ont été dépensés au Burundi pour lutter contre le diabète. Nous demandons que le ministre intègre l'éducation dans les professionnels de santé et des personnes vivant avec le diabète. Le Burundi a promis d'agir pour atteindre les objectifs de couverture, mais c'est d'ici 2030. 80% des personnes dont le diabète est diagnostiqué et ont bon contrôle de glycémie. 80% des personnes atteintes du diabète ont bon contrôle de pression artérielle. 60% du diabète de plus de 40 ans et plus reçoivent de statine. 100% des personnes atteintes du diabète de type 1 ont accès à l'insuline et à un prix abordable. L'amélioration des objectifs ne sera pas possible sans l'amélioration d'accès à l'éducation de qualité du diabète. Donc, sans l'éducation, on risque de voir un nombre croissant de personnes qui sont mortes dues au diabète.
Un mot de sport pour boucler ce journal. Au basketball, chez les hommes, le club Brunani a remporté la coupe du tournoi financé par la banque CRDB. Côté féminin, ce sont les gazelles qui se sont classées premières. Au football, le championnat national Promos League était ce week-end à la 12e journée. Et le club Bumamuru de Chibitoke est provisoirement leader de ce championnat. Les détails avec Alexandre Niyungeko.
Ouvrons cette page sportive hebdomadaire par le football. Le championnat national Premier League était ce week-end à sa 12e journée. Dimanche, Magala Young Boys a battu Olympic Star par 2-0. Kayanza United et Bumamuru se sont neutralisés par un nul et vierge. Un but partout a été le score final entre Burundi Sport Dynamique Mouzouké Tigre Noir et Bouja City a battu Top Junior par 3 buts à 1. Et samedi, Rukinzo et Interstar ont fait match nul de 2 buts partout. Match nul et vierge entre New Oil et Messager Ngozi. Même score entre Aigle Noir et Vitalo. Au classement provisoire de la 12e journée, Bumamuru est leader avec 21 points talonnés de près par Aigle Noir avec 21 points, mais avec une différence de but marqué et un match en retard pour Bumamuru. La troisième place est occupée par les mauvais blancs de Vitalo avec 19 points. C'est au moment où Interstar est la lanterne rouge avec 7 points. Tant qu'on parle du football, sachez qu'une délégation de l'équipe nationale de football, les Hirondelles, a passé la nuit de ce dimanche à Marrakech, au Maroc, où le Burundi livre ce dimanche un match amical contre la Côte d'Ivoire. L'autre délégation burundaise est attendue ce lundi. Au basketball, Ulunani a remporté ce dimanche la CRDB Cup, un tournoi organisé par cette banque tanzanienne qui célèbre ses 10 ans de présence au Burundi. Les Blues et Blancs ont battu Dynamo par 68 contre 40 points. Le pivot de Ulunani, Landrine Koumana, a marqué à lui seul 17 points, aidant ainsi son club à remporter une coupe et une enveloppe de 5 millions de francs burundais. Il s'agit d'un 9e titre pour Ulunani cette année et 10e victoire consécutive sur Dynamo, son adversaire de tous les temps. Les Verts et Blancs de Dynamo se sont contentés d'une enveloppe de 3 millions de francs burundais. Côté féminin, le titre est revenu à l'équipe Les Gazelles qui est venue à bout de Gladiators par 54 contre 39 points. Edissa a été la MVP avec son actif 19 points. L'équipe Les Gazelles est rentrée elle aussi avec une coupe et une enveloppe de 5 millions de francs burundais. Gladiators deuxième avec 3 millions, les troisièmes et quatrièmes ont eu respectivement 1 million et 500 000 francs burundais. Restons au basketball où le président de la FIBA Afrique est en visite au Burundi depuis vendredi. L'objectif de ce déplacement du Mozambicain à Hannibal Aurelio Manav à Bujumbura et d'évaluer le niveau du ballon orange au Burundi par rapport au reste de l'Afrique. Et pour terminer, parlons un peu de judo. La Burundaise Signoline Kanyamuneza qui a représenté le Burundi dans une compétition qui s'est déroulée du 12 au 13 à Dakar au Sénégal a remporté la médaille d'or.
Voilà, c'est par cette nouvelle sportive que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous. Au revoir.